J'avais vraiment hâte à cette discussion-là. Je suis cette histoire depuis quoi? La dernière semaine, facilement, puis je la trouve vraiment intrigante.
T'es vraiment passionné par cette histoire-là parce que tu m'envoies des articles, tu m'en parles tout le temps hors d'onde. Donc, c'est vraiment une histoire qui est venue te chercher.
Bien, c'est que ça me fait un petit peu capoter cette histoire-là, l'histoire de liberté d'expression aussi aux États-Unis. Donald Trump qui se mêle d'une autre situation. Est-ce qu'il a le droit de s'en mêler? Est-ce qu'il devrait le faire? Est-ce qu'il va trop loin? Je parle bien sûr du bras de fer qu'il y a en ce moment entre certaines universités prestigieuses et le président des États-Unis, Donald Trump, entre autres là, récemment Harvard, tu sais, dans le coin de Boston, là, qui poursuit l'administration Trump en justice. Et j'avais hâte d'en jaser avec quelqu'un qui s'y connaît pas mal plus que moi dans le sujet. C'est Luc Laliberté, qui est chroniqueur au Journal de Québec, mais qui enseigne aussi en histoire des États-Unis et des Amériques au Cégep Garneau. Luc, bon matin.
Ouais, bon matin.
Merci d'être là, Luc. Est-ce que j'ai raison d'être intrigué par cette nouvelle-là, le bras de fer entre les universités ou certaines universités et Donald Trump?
Non seulement je pense que tu as la bonne réaction en étant intrigué, j'ajouterais pour ma part que je suis aussi inquiet. Mm-hmm. C'est très clair que l'administration, depuis qu'elle est en poste, donc appelons ça Trump 2.0, on confronte à peu près tout ce qui est limite de la liberté d'expression dans plusieurs sphères. On a coupé des budgets ou encore on exerce des pressions très, très intenses sur plusieurs services. Écoute, je suis en enseignement et je suis dans les médias. S'il y a quelque chose qui m'intéresse plus que tout dans le cadre des deux fonctions dans ma vie professionnelle, c'est bel et bien la liberté d'expression. Mm-hmm. Que fait le président avec l'université Harvard? On l'a vu, le président, il a deux choses là, qu'il a à cœur quand il parle aux universitaires, quand il parle aux médias aussi, mais il y a la lutte à l'antisémitisme. Donc, depuis qu'on a eu l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, Israël n'en finit plus de répondre. Dans les deux cas, il y a des blâmes à mettre partout, j'ai envie de te dire, parce que le Hamas, ce n'est pas la Palestine. Hein, donc, soit on critique le Hamas, avec raison, c'est un groupe terroriste, soit on critique Israël qui a défié tout ce qu'il y avait de convention et de mise en garde dans sa réponse pour éradiquer le Hamas en Palestine. Ce débat-là s'est invité sur les campus américains. Et ce que le président trouve, c'est qu'on n'en fait pas assez pour lutter contre l'antisémitisme.
Okay.
Là où il faut donner un point à Donald Trump, c'est que le FBI a des chiffres qui appuient une hausse, qui vont dans le sens d'une hausse de l'antisémitisme aux États-Unis. Donc, le président dit que ça doit cesser. Il y a des démocrates, en passant, qui sont d'accord avec ça aussi. Chuck Schumer, qui est le meneur démocrate au Sénat, a effectué une sortie. Il a écrit un livre, d'ailleurs, à ce sujet-là. Donc, le président dit vous n'en faites pas assez pour freiner l'antisémitisme. Ce que le président dit pas d'un côté, c'est quelle est sa définition de l'antisémitisme.
Ouais, c'est large.
Donc, c'est très, très, très large. Est-ce que critiquer le gouvernement de Netanyahou, c'est de l'antisémitisme? Dans ma définition, ça n'entre pas. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça, l'antisémitisme. Ce n'est pas critiquer une administration ou remettre en cause des gestes qu'une administration a posés qui vont contre le droit international. Donc, il y avait cette définition d'abord dans un premier temps de l'antisémitisme qui demande à être précisée. Je vous ferai remarquer au passage que Donald Trump a de bonnes idées ou a de bons thèmes. Ça arrive trop souvent, hélas, que Donald Trump utilise la mauvaise manière ou les mauvaises cibles pour faire passer son message. C'est là souvent où je vais le critiquer. De l'autre côté, le président en a aussi contre les universitaires, contre ce que lui appelle des progressistes, ou encore, c'est une étiquette qui est à la mode partout, on ne sait plus trop ce qu'elle signifie maintenant, tellement on a mis de choses là-dedans, mais il en a aussi contre les « woke ». Et on l'a vu dans différents ministères aux États-Unis, éliminer tout ce qui était programme pour la diversité, l'équité et l'inclusion. Ouais. Le président trouve que c'est beaucoup trop progressiste, qu'on est allé beaucoup trop loin. Je rappellerai pour les auditeurs qu'au Pentagone, par exemple, il a fait effectuer littéralement un ménage dans les archives photographiques du Pentagone, de l'armée américaine, et il en a fait disparaître tout ce qui pouvait être une allusion aux gays, aux trans. On s'en est pris à l'héritage des femmes au sein de l'armée américaine. Pour te dire à quel point c'était caricatural, on a fait disparaître des photos parce que le nom de famille des soldats à qui on rendait hommage, leur nom de famille était gay. G-A-Y, donc en anglais.
Non,
non.
Alors, on a dit, voilà, c'est qu'on est rentré là-dedans avec un programme qui était, on a utilisé l'intelligence artificielle.
Ouais.
On a dit, grosso modo, je fais une histoire courte, on a dit, on élimine là-dedans tout ce qui a le mot gay, parce qu'on veut pas, on ne veut pas encourager ça, on ne veut pas montrer ça dans l'armée, on ne veut pas leur reconnaître des privilèges, et ben le logiciel n'a pas fait la différence entre gay, le nom de famille, et gay, l'orientation sexuelle.
Luc, on a utilisé le fameux CTRL-F.
Ouais, voilà. Donc, tout ça pour dire, donc je fais un petit détour, ça me semblait être nécessaire pour dire, c'est ça qu'on reproche aux universitaires américains. L'antisémitisme, donc il y aurait eu sur les campus américains, lors de manifestations, des attaques contre les étudiants de confession juive. Et de l'autre côté, on dit, vous en faites pas assez pour éliminer ce qu'on appelle en anglais les mesures DEI. Donc, l'université, qu'on ait raison ou tard, imaginons même que le président puisse avoir raison, que des progressistes encouragent encore ça, il y a des universitaires qui ont dit, et Harvard en fait partie, c'est pas de vos affaires, c'est pas la formule juridique, on l'aura deviné, mais grosso modo, c'est que vient faire le président dans la liberté d'expression. Ce que vient faire le président, il a imposé ou il a tenté en tout cas de couper des budgets à l'Université Columbia à New York.
Oui.
C'est 400 millions de dollars qu'on devait recevoir, le président a dit, vous n'aurez pas ces 400 millions-là si vous ne vous conformez pas. Et Columbia a revu toutes ses pratiques, puis a revu son livre de jeu, si on veut. Et là, ils espèrent mettre la main sur les 400 millions.
Puis on le fait vraiment pour l'argent, parce que j'allais te demander pourquoi certaines universités ont plié et qui ont dit « Oui, M.
Voilà.
Trump, on s'arrange, mais t'as Harvard qui est comme le village gaulois dans tout ça. »
Voilà, l'université qui vient d'être rejointe d'ailleurs, l'université Harvard, rejointe par 4 autres universités prestigieuses, ce qu'on appelle la Ivy League aux États-Unis. On peut penser à Princeton, Yale, par exemple, Brown. Donc, on a dit, nous, on est d'accord avec la position de Harvard. Écoute, accrochez-vous, pour Harvard, c'était se priver potentiellement de plus de 9 milliards de dollars de subsides fédéraux. Donc, Harvard met son pied à terre et dit, nous, on n'est pas d'accord avec ça, on ne va pas appliquer ça, et on va même vous poursuivre devant les tribunaux. Et je pourrais me tromper, mais si j'avais à parier, considérant l'historique de cette question-là, sur la question de la liberté d'expression, Harvard va gagner contre l'administration Trump. Mais ça veut dire qu'on est prêt à vivre avec des coupures. Et déjà, sur le 9 milliards qu'on menaçait de retirer à l'université Harvard, il y a 2,2 milliards de coupures qu'on a imposées à l'administration. Et il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont croches dans le sens que c'est mal fait. C'est cet argent-là, d'abord, c'est pas Donald Trump qui le vote, c'est le Congrès. Tant et aussi longtemps que le Congrès ne réagit pas face à Donald Trump, M. Trump peut exercer ce chantage-là sur les universités.
Donc, faudrait que les démocrates s'élèvent, Luc,
non,
si je comprends bien?
Les démocrates se lèvent, mais ils sont pas majoritaires.
Oui, c'est ça. Donc, ça prend des républicains qui vont venir appuyer les démocrates contre Donald
Trump.
Voilà.
Les mêmes républicains qui se font les champions de la liberté d'expression, ils sont silencieux face à Donald Trump présentement. Et en passant, c'est la même chose sur les tarifs douaniers. C'est pas au président de décider des tarifs douaniers, c'est au Congrès, c'est à la Chambre des représentants et au Sénat. Mais les républicains n'osent pas défier Donald Trump. Donc, tout ça pour dire, l'Université Harvard, en passant, pourquoi est-ce que c'est elle qui se lève alors que Columbia ne l'a pas fait? Parce que Harvard est probablement l'université la plus riche aux États-Unis avec un fonds de 50 milliards de dollars.
Donc, ils ont les moyens de combattre Donald Trump.
Voilà, tout ça pour dire, en gros, l'université va être ouverte demain puis les cours vont se donner. Mais le prix à payer, c'est intéressant de le préciser aussi, les milliards de dollars qui pourraient ne pas entrer à Harvard, c'est pour financer des projets que Harvard fait dans la communauté, avec des centres de recherche ou entre autres avec des hôpitaux. Il y a 60 collèges et universités autour de Boston ou dans Boston. Il y a énormément de centres de recherche et d'hôpitaux aussi. Et ces subsides-là fédéraux devaient en fait aider pas l'université dans son fonctionnement, on devait financer des projets avec la communauté. Donc, c'est éventuellement des services à la population ou des percées dans certains domaines de recherche qu'on n'effectuera pas. Mais Harvard, donc, n'est pas dans une situation où les opérations à court et à moyen terme vont être bloquées. On a suffisamment d'argent, on a de très généreux donateurs et c'est une des raisons qui explique qu'on est capable de se tenir debout au moment où on se tape.
Hey Luc, tu es enseignant d'histoire des États-Unis au Cégep Garneau.
Oui.
Dis-moi donc, est-ce qu'il y a un autre président dans l'histoire des États-Unis qui a déjà tenté de mettre autant à mal l'éducation? Parce qu'on a vu, il y a de cela un mois environ, les coupes drastiques dans le système d'éducation allocations fédérales, notamment pour des enfants défavorisés puis des enfants à besoins particuliers. Et là, on voit une attaque en règle envers, justement, la liberté d'expression des universités. Je trouve que ça fait beaucoup pour un 100 jours de mandat de Donald Trump.
Voilà, c'est une des choses, j'explique souvent, à la fois en classe et à la fois dans les médias, quand on parle de Donald Trump, souvent on la joue encore comme ça, hein, on dit on est de gauche ou de droite, on est progressiste ou conservateur. Avec Donald Trump, retenez simplement qu'on est complètement ailleurs. Ce n'est pas conservateur ou ce n'est pas démocrate. Moi, je n'hésite pas à utiliser le terme « dérive autoritaire ». Aucun président ne fait en 100 jours ce que Donald Trump essaie de faire présentement. On voudrait miner les États-Unis de l'intérieur, qu'on ferait pas ou on n'agirait pas autrement. C'est impressionnant. Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire pour les 100 jours.
Ben non, parce que Luc, on s'attaque à un symbole comme l'Université Harvard. Quand on pense aux États-Unis, l'Université Harvard vient dans les premières pensées des gens là, comme un modèle de réussite.
Voilà, puis tu mentionnais ce qu'un président fait ça en éducation. Ce qu'on a vu dans l'histoire, puis on l'a vu des deux côtés, à la fois du côté des démocrates et à la fois du côté des républicains, c'est qu'on n'a souvent pas les mêmes valeurs, ou en tout cas, on ne les présente pas de la même façon. Et on a eu des administrations qui étaient beaucoup plus progressistes ou à gauche. On en a eu, je pense, aux années Reagan, par exemple, ou au premier mandat de George W. Bush, où les valeurs qu'on encourageait, les pressions qu'on exerçait, allait vers, finalement, des valeurs de droite ou des valeurs plus conservatrices. Mais une attaque comme celle-là sur la liberté d'expression, les médias, entre autres, au moment où on se parle, sont dans une situation qui est très, très, très difficile. Le patron de l'émission de 60 Minutes sur CBS, qui est un succès depuis des années, vient de partir parce qu'on exerce trop de pression puis il ne pense plus être capable de faire son travail comme il veut. Donc, médias et éducation, on est littéralement sous assaut présentement et je n'ai pas de parallèle ou de comparatif dans l'histoire américaine.
Hey Luc, une petite vite en terminant. Est-ce que Donald Trump a vraiment le temps d'embarquer dans ce conflit-là avec Harvard? Il n'y a pas d'autres priorités?
Il y a beaucoup de priorités, mais ça, c'est la stratégie de Donald Trump. Et c'est d'ailleurs, s'il y a, pour ceux qui s'opposent à Donald Trump, s'il y a un espoir contre Donald Trump, c'est que ce qu'il fait depuis presque 100 jours, là, ça va être mercredi prochain officiellement, ce qu'il fait littéralement, c'est semer le chaos. C'est-à-dire que je tire partout en même temps, mais il le fait de manière précipitée, puis il le fait de manière brouillonne, comme il le fait au Pentagone avec l'exemple que je décrivais tout à l'heure. Donc, oui, il y a d'autres priorités. Mais en tirant partout comme ça, d'abord, il disperse les journalistes, il envoie chercher les gens à gauche et à droite. Et Trump dit, quand il y a un chaos comme ça, pendant que tout le monde cherche, moi, je ramasse qui retombe de ça, finalement. Il le fait avec ses entreprises. Dans certains cas, ça peut être payant. Le faire avec un pays, c'est une autre game, c'est une autre paire de manches. Et moi, je trouve qu'il déstabilise le pays au-delà du raisonnable. Donc, on verra combien de temps ça va prendre avant que les gens se lèvent, parce qu'ils commencent à le faire. Mais en 100 jours, il a fait beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, même dans les scénarios les plus rapides pour passer à l'action.
Luc Laliberté, merci comme toujours pour ton temps, ton analyse et ce petit cours d'histoire ce matin à Boulevard 101.
Écoute, une bonne journée à tous vos auditeurs, une bonne journée à l'équipe. Merci.
Merci Luc.
Salut Luc, merci beaucoup.
Bye. Bye.
J'irai moi m'asseoir dans un cours de Luc Laliberté au Cégep Garneau.
C'est super intéressant. C'est pour ça que je trouvais important de poser la question. Est-ce qu'il y a un autre président qui a déjà fait ça?
C'est souvent ce qu'on fait hein, avec Luc quand même. Oui, retourner dans le passé un petit peu parce que c'est important.
Tellement
son côté
une bible
historique.
De oui, ben, donc est-ce qu'on a raison de regarder Donald Trump et de faire « OK, là, ça dépasse l'entendement » ou c'est pratique, là, je vais prendre cette expression-là, je le mets en guillemets, pratique courante chez les républicains, mais on se rend bien compte que même des présidents qui ont été très à droite sur l'échiquier politique, que ce soit Ronald Reagan ou George W. Bush, ont jamais franchi la ligne que Donald Trump est en train de franchir.
C'est pour ça, d'entrée de jeu, que j'ai utilisé intriguant puis pas inquiétant. Puis Luc, finalement, l'a utilisé, c'est que moi, je suis pas bien placé, j'ai pas les connaissances nécessairement, puis je voulais le savoir si, puis je l'ai dit, si Donald Trump devrait mettre ses énergies ailleurs ou a plein droit de mener là, ce bras de fer-là contre, dans ce cas-ci, là, Harvard ou les autres universités prestigieuses. Je savais pas, je me demandais quelle était sa stratégie puis le pourquoi derrière la chose.
On comprend très bien que les gens aux États-Unis qui sont contre les politiques de Donald Trump, bien sortez voter aux élections de mi-mandat et ça pourrait tout changer. Le Sharpie va être obligé de se serrer.
il va serrer son Sharpie.
Ben, il n'y aura pas le choix, parce qu'il va falloir qu'il passe ses décrets par le Congrès, la majorité serait démocrate.
D'après moi, il va quand même l'avoir le Sharpie, mais il va juste signer.
Ouais, c'est vrai qu'il va nous.
Des autographes ou
quelque chose. Il va réinventer des histoires comme le fentanyl. Ouais,
quelque chose à signer. Il ne peut pas arrêter de signer, là, Donald Trump, là. Come on. Le Sharpie, c'est sa baguette magique.
Le président au Sharpie.
1h37, on se laisse le temps d'une pause publicitaire. On se retrouve dans 5 minutes. Rich.